Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien. Et aujourd'hui, exceptionnellement, pour ces fêtes pascales, je vous propose une méditation sur la question du sacrifice, de l'Eucharistie, du sacerdoce et de la résurrection. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode hors série numéro 4, le mystère de la résurrection. Alors, pour entrer dans ce mystère de la résurrection, pour ceux qui écoutent cette émission dans les jours qui suivent Pâques, j'aimerais revenir sur ce qui est le centre de ce que nous avons vécu pendant la Semaine Sainte. Ces cérémonies passent vite, elles semblent déjà terminées alors qu'on les a à peine commencées, alors qu'elles, elles manifestent, elles représentent et elles réalisent le cœur de notre foi chrétienne. Alors pour commencer, je vous invite à méditer, à réfléchir sur cette question. Le christianisme ne commence pas par une morale, ni même par une doctrine abstraite. Vous voyez, contrairement à d'autres religions, à l'islam, au judaïsme, le christianisme n'est pas d'abord un code, n'est pas d'abord une loi de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Comme beaucoup le croient, je reçois régulièrement sur les réseaux sociaux des questions de gens qui me disent « Est-ce que comme chrétien j'ai le droit de faire ceci ou est-ce que c'est permis de faire cela ?» Par exemple, est-ce que c'est autorisé d'écouter du métal, d'écouter du rap ou de se faire des tatouages ? Alors je réponds toujours la même chose, notre religion et surtout la morale chrétienne, la morale qui découle de notre foi chrétienne, n'est pas une morale du permis et de l'interdit. C'est d'abord une morale du bien, une morale de ce que l'on vise. Et ce que l'on vise quand on est chrétien, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est Dieu qui nous la donne et par son Fils Jésus-Christ. Alors, vous voyez où je veux en venir, le christianisme n'est pas une morale, ni même une doctrine abstraite, mais toute l'histoire du salut commence par un sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et tout ce qui en découle. Or, ce sacrifice, justement, n'est pas seulement un événement du passé. Bien sûr, il a une réalité historique, il a une date, il a un lieu, il est un moment dans le temps, il a une réalité historique qui est tout à fait fondamentale, mais cet événement du passé nous est rendu présent, il nous est communiqué, il nous est transmis. Et c'est précisément là que se comprend l'unité entre l'Eucharistie et le sacerdoce. Alors, j'aimerais justement vous montrer en quoi l'Eucharistie et le sacerdoce sont le sacrifice du Christ rendu présent et du Christ ressuscité, bien sûr. Parce que, comme dit saint Paul, si le Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. D'une certaine façon, pour éviter tout malentendu, mais je suis sûr que ceux qui écoutent n'en sont pas là, évidemment, le christianisme et la célébration du Vendredi Saint, le fait de représenter des croix, de porter les croix autour de nos coups, de dresser des calvaires au croisement des chemins, n'est pas un goût du morbide et un goût de la mort, n'est pas un attrait pour la mort, la souffrance, évidemment. Au contraire, ces souffrances et cette mort du Christ seraient absurdes, seraient terribles, seraient dramatiques si le Christ n'était pas ressuscité. Et si l'on célèbre, évidemment, le Vendredi Saint, si l'on dessine des croix, que l'on fait des pendentifs en or, en forme de crucifix, c'est précisément parce que le Christ a vaincu la mort sur la croix. Alors, ce que j'aimerais développer comme idée aujourd'hui, c'est cette idée que le sacerdoce existe pour rendre présent aujourd'hui et maintenant, ici et maintenant, le sacrifice du Christ. Et que finalement, l'Eucharistie n'est rien d'autre que ce sacrifice du Vendredi Saint, achevé dans la résurrection, qui est rendu sacramentellement présent pour nous. Le cœur de tout cela, c'est évidemment le sens de ce sacrifice, à savoir, comme dit saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, « Le Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle ». Alors commençons par revenir sur ce que l'on célèbre le Jeudi Saint, à savoir la scène. La scène, c'est cette anticipation sacramentelle du sacrifice de la croix. Il me semble très important d'insister là-dessus, savoir que la scène n'est pas un simple repas d'adieu. La scène n'est pas simplement le dernier repas du Christ avec ses disciples, dans lequel il donnerait des belles paroles comme un testament. La scène, si l'on lit attentivement l'Évangile, eh bien, elle n'est rien d'autre que l'offrande anticipée du Christ qui va se réaliser, qui va être réalisée le lendemain sur la croix. D'ailleurs, il y a une difficulté lorsqu'on lit l'Évangile, lorsqu'on compare les Évangiles synoptiques, donc les Évangiles de Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, on appelle synoptique parce qu'on peut les mettre en synopse, c'est-à-dire les regarder ensemble, puisqu'ils suivent une chronologie presque parfaite du début à la fin, par opposition à l'Évangile de Saint Jean, qui lui raconte des éléments qui n'existent pas dans les trois autres. Eh bien, dans les Évangiles synoptiques, il semble clair que le repas pascal, la scène est un repas pascal, puisque c'est le grand repas de la Pâque juive qui commémore la sortie d'Égypte. On reviendra sur cette question dans quelques instants. Alors que dans l'évangile de Saint Jean, il semble au contraire que la Pâque a lieu, commence le vendredi soir, non pas le jeudi soir, mais le vendredi soir. Alors, les exégètes se sont penchés sur cette question. Il y a plusieurs théories. Est-ce que le Christ a anticipé le repas pascal ou est-ce qu'il y avait différentes écoles parmi les Juifs à cette époque-là qui faisaient que certains le célébraient un jour et d'autres le lendemain? Quoi qu'il en soit, il y a clairement une unité entre ce qui se passe le Jeudi Saint et ce qui s'achève le Vendredi Saint. Eh bien, donc l'idée principale, l'enseignement principal, c'est que le sacrifice du Christ commence à la scène et s'achève au calvaire. D'ailleurs, dans la liturgie traditionnelle, alors avant la réforme de Pie XII en 1955, cette unité était manifestée de façon tout à fait efficace, puisqu'il n'y avait pas de communion le vendredi, il y avait ce qu'on appelle la messe des présanctifiés, c'est-à-dire que c'est l'hostie qui était consacrée le jeudi, qui était gardé au reposoir et adoré au reposoir pendant la nuit, et qui était consommé, j'allais dire solennellement par le prêtre, le vendredi après le récit de la Passion et la cérémonie de la croix. Donc il y avait vraiment cette unité qui malheureusement a un peu disparu des réformes successives de la liturgie. Je ne reviens pas sur cette question, ça pourrait être l'objet de grandes discussions, mais c'est sûr que la liturgie traditionnelle, jusqu'en 1955, avait cette puissance théologique qui a été amoindrie par la suite. Alors, revenons sur la question de la scène. Je disais que la scène donc, n'est pas un simple repas d'adieu, c'est l'offrande anticipée du Christ, et qui évidemment est explicité, exprimé dans le récit de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Ce qui d'ailleurs est assez étonnant, puisque le Jeudi Saint, le Christ n'est pas encore mort sur la croix. Et donc, quand le Christ dit ça, que comprennent les apôtres? Que comprennent les apôtres? Nous, bien sûr, pour nous, c'est évident, quand le Christ dit « Ceci est mon corps, livré pour vous », eh bien, il parle de son sacrifice qui va avoir lieu, mais on voit bien, si on lit l'un après l'autre, que si l'on voit la scène et la crucifixion comme deux éléments historiques, eh bien qu'il y a un lien intime entre les deux. Alors pour comprendre tout cela, il faut évidemment se souvenir que la Pâque juive que célèbre le Christ était déjà un sacrifice. La Pâque juive, c'est l'agneau immolé. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu demande à Moïse de faire sortir le peuple de l'esclavage du Pharaon, de l'esclavage des Égyptiens, eh bien, dans la nuit de Pâques, il demande au peuple juif de prendre un agneau d'un an, de moins d'un an, et de l'immoler, c'est-à-dire de lui ôter la vie, en sacrifice, et de le manger, s'en nourrir avec du pain azim, et de prendre le sang de l'agneau et de le mettre sur le tour de la porte, à l'entrée des maisons, sur le chambranle de la porte, pour que l'ange de la mort ne frappe pas les familles du peuple hébreu. Et puis, pendant la nuit, sortant de chez eux, ils doivent sortir de chez eux, et puis quitter la terre d'Égypte, et pour se rendre dans le désert, et atteindre la terre promise. Alors, évidemment, la Pâque juive, on le comprend quand on est chrétien, n'est rien d'autre qu'une annonce de la Pâque accomplie par le Christ. C'est-à-dire que le Christ vient nous libérer de l'esclavage, non pas des Égyptiens, mais de l'esclavage du péché, de nos propres péchés, pour nous ouvrir non pas la terre promise, mais le paradis. Et c'est en passant par le sang de l'agneau, par le sang de cet agneau immolé, à savoir le Christ lui-même, que l'on peut quitter le péché, quitter le mal, cet esclavage, pour accéder à la liberté de la vie éternelle. C'est en ce sens, bien sûr, que le Christ est désigné, dès le début de son ministère public, par saint Jean-Baptiste, comme étant l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dès le départ, c'est cette désignation d'agneau de Dieu qui signifie, bien sûr, cet agneau immolé, qui signifie, entre autres, cet agneau immolé pour le peuple juif, qui est, d'une certaine façon, celui qui va être, celui par le sang duquel nous allons être sauvés et libérés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les sacrifices de l'Ancien Testament, aussi bien ce sacrifice de l'agneau pascal que... Voilà la raison d'ailleurs, enfin vous l'avez noté évidemment, mais c'est la raison pour laquelle on mange de l'agneau le jour de Pâques, en mémoire du Christ comme agneau pascal. Belle tradition d'ailleurs qu'il faut garder avec des haricots, avec des pois. En tout cas, voilà une belle tradition qui montre à quel point le christianisme est inséré, incrusté dans l'identité de notre civilisation chrétienne. Et de la France et de la vie des gens, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte, malheureusement. Alors, je disais que tous les sacrifices de l'Ancien Testament convergent vers ce sacrifice du Christ et ne prennent leur sens que parce qu'ils sont des annonces, des préparations, des anticipations du sacrifice du Christ. Un autre élément, si on revient sur la question de la scène, donc de ce repas pascal, de cet agneau pascal, dans lequel le Christ se présente comme étant lui-même celui qui va réaliser celui qui va être la victime immolée, c'est cette parole par laquelle le Christ instaure son sacrifice, à savoir « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Le « ceci est » une parole efficace. Et c'est une parole qui réalise le sacrifice. Le Christ ne dit pas « ceci symbolise mon corps », mais il dit clairement « ceci est mon corps ». La parole du Christ, donc, produit ce qu'elle signifie, dans le sens où le sacrifice du Christ devient sacrement. Le sacrement, c'est un signe extérieur sensible qui réalise une grâce invisible. Et donc, en se donnant dans l'Eucharistie, dans le repas de la scène, le Christ, d'une certaine façon, rend efficace le symbole que sera par la suite ce repas pascal et donc ce repas eucharistique. Venons-en maintenant à l'Eucharistie en elle-même. Donc, l'Eucharistie aujourd'hui, telle qu'elle est célébrée, il faut bien avoir en tête que l'Eucharistie, contrairement à ce que certains courants très, très modernes et très progressistes ont voulu, sous l'influence du protestantisme, ont voulu insinuer, l'Eucharistie n'est pas d'abord un repas communautaire, ce n'est pas d'abord un banquet de partage. L'Eucharistie, c'est d'abord l'actualisation du sacrifice du Christ. C'est la définition du Concile de Trente. Hein, le même Christ est contenu et immolé de manière non sanglante. C'est le sacrifice du calvaire lui-même qui, étant éternel, est rendu présent par les paroles du prêtre, par la consécration. Il est rendu présent de façon sacramentelle, bien sûr, c'est de façon symbolique mais efficace, sur l'autel à chaque fois que la messe est célébrée. Alors, si l'on méditait cela, on comprendrait, les chrétiens eux-mêmes, les catholiques, comprendraient l'importance de la messe. tous les gens qui disent « Ah oui, moi je crois en Dieu, mais la messe, ça m'intéresse pas trop. » Et bah, malheureusement, c'est parce que la messe a été transformée en une espèce de cirque. Et quand c'est pas un cirque, bon, c'est des belles cérémonies, mais qui sont bien gentilles, mais qui semblent ramener soit à une belle communauté humaine, soit une fête paroissiale, quoi, si vous voulez, une kermesse. Malheureusement, trop souvent, alors bon, c'est pas le cas partout, heureusement, hein, mais trop souvent, la messe est réduite à une réunion humaine, et on oublie cette dimension éternelle, sacrificielle, qui nous rend présents au pied de la croix, symboliquement, évidemment, sacramentellement, et quand on est à la messe, eh bien, d'ailleurs, c'est un très bon critère pour se demander qu'est-ce qu'on peut faire à la messe, qu'est-ce qu'il faut mieux ne pas faire, eh bien, la question c'est, est-ce que j'aurais fait ça pendant la messe si j'étais moi-même au pied du calvaire? Voilà, se mettre un... Alors, être joyeux, parce que l'on médite le jour de Pâques, la résurrection, bien sûr, mais exprimer des sentiments humains, applaudir, se taper dans les mains, se faire la bise, ou encore pire, faire de la guitare et de la batterie et transformer la messe en un spectacle, bah, en fait, c'est détourner la messe, et donc la liturgie, du mystère qu'elle réalise. Donc, pas simplement qu'elle représente, mais qu'elle réalise. Alors, comment est-ce que ce sacrifice du Christ, du Vendredi Saint, est rendu présent? Eh bien, par la transsubstantiation, par le changement, par les paroles du Christ, enfin du prêtre, qui dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, le pain devient réellement le corps du Christ, mais le corps livré, le corps qui va être crucifié, qui va être offert. Comme dit saint Thomas d'Aquin, l'Eucharistie est le sacrement de la passion du Christ. Et alors, d'ailleurs, le fait que le prêtre consacre les deux espèces, le pain et le vin, de façon séparée, en disant « ceci est mon corps » et puis « ceci est mon sang », fait que le sacrifice est réalisé de façon sacramentelle, dans le sacrement, parce que un être vivant pour lequel le corps et le sang sont séparés, finalement, est un être vivant qui est mort, qui a été immolé. Et donc, c'est le Christ immolé qui est rendu présent sur l'autel. Alors évidemment, on ne va pas dire que le prêtre sacrifie le Christ à chaque fois. Le prêtre ne tue pas le Christ, hein, il est mort une seule fois. Mais il est rendu présent comme victime immolée, donc comme victime du sacrifice qu'il offre lui-même à son Père. Donc il est à la fois lui-même le prêtre, on y vient, il est à la fois lui-même le prêtre et la victime qui est offerte. Alors, il y a un élément que je n'ai pas encore mentionné de l'Eucharistie, peut-être que vous l'avez noté, c'est évidemment la communion. Parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, ce qui est offert dans le sacrifice, est aussi donné en nourriture. À part le sacrifice de l'Holocauste où la victime est totalement détruite, eh bien, dans l'Ancien Testament, tous les animaux qui sont offerts sont donnés aussi en nourriture. Pourquoi ? Parce que ça devient une participation à la victime qui a été offerte à Dieu. D'une certaine façon, lorsqu'on offre, on offrait dans l'Ancien Testament ou même dans les cultures païennes, moi j'ai vécu ça. C'est vrai que chez nous on voit plus tellement des gens qui font des sacrifices, mais j'ai vécu ça par exemple en Afrique. J'étais allé au Burkina Faso à la fin de la saison des pluies, donc il y avait une grande inquiétude s'il devait pleuvoir. Donc j'avais assisté dans un village où il y avait une grande réunion. Enfin, tout le monde était réuni sur la place principale et ils avaient égorgé un poulet. Et je me souviens avoir parlé avec j'étais laïque à l'époque, j'étais étudiant, mais j'avais parlé avec le prêtre du village, le curé, c'était très beau. Il disait, voilà, nous ici en Afrique, au Burkina Faso, on est chrétiens que depuis 150 ans, donc en fait, la grande tentation, c'est de revenir vers ces gestes païens, alors que moi, mon rôle, c'est d'enseigner aux chrétiens que depuis que le Christ s'est offert lui-même en sacrifice, eh bien tous les autres sacrifices de poulets, de moutons ou de vaches, tous les sacrifices d'animaux sont rendus caducs. Ça n'a plus aucun sens d'offrir à Dieu des animaux, puisque Dieu lui-même s'est offert sur la croix. Alors, je reviens à cette question de la communion, qui est l'achèvement du sacrifice. Le fidèle communie à ce qu'il offre pour, d'une certaine façon, s'unir à son offrande. Selon cette belle phrase de saint Augustin, devenez ce que vous recevez. Voilà, quand on mange quelque chose, eh bien, on se transforme, même biologiquement, chimiquement, on se transforme en la nourriture, en assimilant la substance de ce qu'on a mangé. Eh bien, de la même façon, la communion, lors de l'Eucharistie. C'est d'une certaine façon, c'est la façon pour nous de nous assimiler, de devenir, par cette nourriture céleste, par cette nourriture divine, de devenir un peu plus, davantage, semblable à Dieu, par cette participation au sacrifice du Christ, en mangeant le corps du Christ. Alors, vous voyez cette totalité du sacrifice qu'est l'Eucharistie. Alors, un mot maintenant sur le sacerdoce, parce que le sacerdoce, c'est précisément le pouvoir de rendre présent le sacrifice. Ouais, s'il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas de sacrifice. C'est évidemment ce que le Christ a institué lors du repas de la scène, puisqu'il ne dit pas seulement de se souvenir, il ne dit pas souvenez-vous de cela, souvenez-vous de moi, mais faites ceci en mémoire de moi. Il transmet ce pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire le pouvoir d'offrir le sacrifice. Donc c'est une idée, il me semble, là aussi, malheureusement, trop oubliée, mais le sacerdoce, le fait d'être prêtre de l'Église catholique, est intrinsèquement sacrificiel. Le prêtre est d'abord un sacrificateur, c'est-à-dire qui offre le Christ comme victime, et qui donne ensuite aux fidèles pour participer, qui donne les grâces aux fidèles, qui sont des participations à ce sacrement et à ce sacrifice. Cette notion de sacrifice a été oubliée, même, il faut être plus clair, elle a été volontairement effacée, supprimée de beaucoup de vocabulaire ou d'enseignement du catéchisme aujourd'hui, sous prétexte que c'était des restes de paganisme, que c'était des erreurs moyenâgeuses qui avaient été ajoutées à l'Évangile, encore une fois sous l'influence du protestantisme, ou d'un certain protestantisme en tout cas. Alors que l'Église a toujours enseigné ça, et que si l'on lit attentivement l'Écriture, dans le sens de la tradition catholique, c'est-à-dire selon l'enseignement des pères de l'Église, bien sûr, évidemment, la messe, la sainte messe, l'Eucharistie est un sacrifice, et le sacerdoce est un saint intrinsèquement sacrificiel. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais toute la question des vocations, la crise des vocations est exactement liée à ça. C'est-à-dire que si vous interrogez des jeunes qui rentrent au séminaire aujourd'hui, qui veulent être prêtres, la réponse principale, c'est pourquoi voulez-vous être prêtre pour célébrer la messe? Il y a bien sûr, n'importe quel homme, n'importe quel jeune homme, n'importe quel chrétien d'ailleurs, hein, c'est vrai pour les femmes aussi, mais ont ou doivent avoir cet attrait pour la messe, pour ce mystère qui se réalise devant nous tous les jours et qui nous nourrit, qui nous sanctifie et qui nous assimile à Dieu. Cette offrande, c'est Dieu qui est en jeu. Voilà. Donc évidemment, comme je disais tout à l'heure, si la messe est réduite à une simple réunion des chrétiens qui se donnent la paix et qui s'embrassent, en fait, ça ne vaut pas la peine de donner sa vie pour ça. Et donc si on perd la dimension sacrificielle du sacerdoce, eh bien, c'est tout à fait logique qu'il n'y ait plus de vocation et qu'il y ait de moins en moins. Donc, je fais un appel à retrouver, que les prêtres retrouvent ce sens du sacrifice dans la messe et dans leur vie aussi. Et c'est ça qui fera qu'il y aura des vocations nombreuses. C'est pas en ordonnant des hommes mariés, ça n'a rien à voir, c'est une fausse solution. Il faut que les évêques enseignent à nouveau le sens sacrificiel du sacerdoce. D'ailleurs, s'il fallait avait besoin de le prouver, eh bien, dans la messe, le prêtre n'agit pas en son nom, mais il agit dans la personne du Christ. Le prêtre ne dit pas ceci est le corps de la mère affrée. Moi, je dis pas ceci est mon corps, dans le sens ceci est le corps de la mère affrée. Quand je dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, je parle en la personne du Christ. C'est évidemment le corps du Christ et le corps et le sang du Christ. Donc, c'est le Christ qui offre à travers lui, à travers le prêtre. C'est pas moi qui offre un sacrifice, c'est l'unique prêtre, à savoir le Christ, qui s'est offert sur la croix lui-même, comme il dit dans l'évangile de Saint Jean, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne, et qui est lui-même la victime. Il est l'agneau immolé, mais il est aussi le prêtre. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul prêtre, qu'un seul grand prêtre, celui qui fait le sacrifice, qui offre le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Et les prêtres de membres de la hiérarchie de l'Église, du clergé, ne le sont que par participation à l'unique sacerdoce du Christ. Alors, le temps passe, mais je crois qu'on a dit des choses quand même tout à fait fondamentales. Vous avez compris que ce que je veux souligner, c'est l'unicité dans ce sacrifice. Le sacerdoce existe pour le sacrifice, et l'Eucharistie est une conséquence de l'unique sacrifice du Vendredi Saint, et donc nécessite le sacerdoce. L'Eucharistie et le sacerdoce sont inséparables. Voilà. Parce que le Christ est à la fois prêtre et victime. Toute la théologie catholique s'unifie ici, dans cette parole de saint Thomas d'Aquin, par exemple, le Christ est à la fois prêtre et victime. Alors, un mot sur la résurrection, bien sûr. La résurrection, c'est quoi? C'est l'acceptation de ce sacrifice par le Père. Comme le Christ s'est offert en victime, son sacrifice a été agréable au Père, comme il avait agréé le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Melchisédek, le sacrifice d'Abraham, enfin d'Isaac par Abraham, etc. Donc voilà le cœur de notre foi, le sens de la résurrection. La résurrection, c'est pourquoi c'est une victoire du Christ sur la mort, le mal et sur le démon. C'est parce qu'il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert pour nous délivrer du mal, pour nous ouvrir les portes de l'éternité. Et toute la valeur du mystère de la foi réside dans cette offrande du Christ qui se fait prêtre et victime. Alors, voilà, entrons dans ce mystère de Pâques avec cette dimension tout à fait théologique, en comprenant que c'est à la messe tous les dimanches, tous les jours, se joue ce mystère de notre salut. Alors assistons désormais à la messe, avec en tête, sous les yeux, cette éternité, cette immensité, cette perfection de l'œuvre de Dieu dans le monde. Comme toujours, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux intégrer dans notre vie cet enseignement de l'Église. Nous terminerons exceptionnellement par une prière du temps de Pâques à la Sainte Vierge. Regina Celi Letare, Alléluia, Quiaquam Meruisti Portare, Alléluia, Resurrexit Sicudixit, Alléluia, Ora Pro Nobis Deum, Alléluia. Merci à tous de votre fidélité et de votre écoute attentive de cet épisode hors série. C'était l'abbé Mathieu Raffray, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.